Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'émission Interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou 101.7 sur Luc Andivois. Et l'émission est également mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Marcel Moratal. Bonjour.
Bonjour.
Marcel Moratal, on peut vous présenter comme un poète. Donc, vous êtes ici pour nous parler d'un ouvrage que vous avez publié récemment, intitulé « Réflexion à quatre pattes et tout en noir et blanc ». Voilà. Et donc, c'est un texte d'une centaine de pages. Et on peut peut-être d'abord, avant tout, vous présenter Marcel Moratal.
Oui, bah écoutez, d'abord je suis ravi que vous m'invitiez pour parler de mon livre. Alors, qui suis-je? Bonne question. Difficile de parler de soi toujours, mais bon, oui, ben moi je suis un écrivain, écriveur, je préfère écriveur parce que ça rime avec labeur. Et c'est pas toujours facile d'écrire, hein. L'écriture c'est pas toujours une chose... pas toujours naturelle pour moi, des fois que je me donne un peu un coup de pied aux fesses parce que l'écritoire, des fois, je suis loin de l'écritoire, des fois. Je fais pas qu'écrire, je fais aussi autre chose à côté. Donc, l'écriture, quand je vais vers elle, c'est parce que y a vraiment un appel très important de sa part. Et là, je me mets à écrire. Voilà. Je suis né dans un pays qui s'appelle le Maroc, à Fès. Et mes parents ont quitté le Maroc et sont venus en France. Et on a pas mal voyagé en France. Et puis, on s'est fixé à Valence après. Et puis, de Valence après, mon père a acheté une maison du côté de Nyons, là, dans les baronnies provençales. Et cette maison est devenue, au fil des années, une petite salle de spectacle, parce que je m'occupe de ça aussi, une petite salle de spectacle qui reçoit pas mal d'artistes, surtout de la chanson française. Et je suis donc le directeur de cette salle aussi.
Voilà, petite salle intitulée Le Canard en bois.
Oui, c'est ça.
Le canard en bois ne peut que bien flotter.
Ah ben, là, mais pour l'instant, malheureusement, depuis 2 ans, il est fermé parce que... Donc, je me suis occupé de ma maman qui était très malade et je l'ai amenée jusqu'au bout. Et ça m'a pris plus d'un an hein, de présence à ses côtés. Et puis donc, elle nous a quittés. Et puis est arrivée la Covid. Ça, il y a eu une espèce d'enchaînement là, un peu dur pour moi. Et donc, j'ai été obligé donc d'annuler les spectacles de ma salle que j'avais programmés. Et donc, jusqu'à ce jour, la salle est fermée, mais je pense la rouvrir à l'automne.
Vous êtes ici pour, avant tout, nous présenter cet ouvrage sur cette réflexion à quatre pattes et tout en noir et blanc. Ce titre voudrait exprimer quoi?
Alors, réflexion à quatre pattes. Bon, quatre pattes, bien, écoutez, ça fait référence à un chien, déjà. J'adore les chiens, j'adore les animaux en général. Et donc, c'est l'histoire de ce chien qui se balade... un peu partout sur la planète, ouais. Alors voilà, donc ce chien, il est en errance perpétuelle et il pense à l'histoire des hommes, il pense à toutes ces horreurs que les dictateurs, que les chefs de clan, les oligarques, tous ces gens qui ont du pouvoir et qui ont souillé la terre et tué des millions et des millions d'hommes. Le chien, il pense à tout ça et ça le rend vraiment pas très gai, quoi. C'est vrai que Réflexion à quatre pattes et tout en noir et blanc n'est pas un texte très gai. Ça, je le conçois, je le reconnais. Mais vous savez, comme on dit, la vie n'est pas gaie non plus. Donc, ça sert à rien de se raconter des histoires en disant que la vie est belle, quoi. On entend des fois ça et bon, elle n'est pas toujours très belle, mais bon, c'est vrai qu'il faut toujours avoir de l'espoir. Mais bon, là, en l'occurrence, l'espoir dans ce chien, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup.
J'ai l'idée du chien, celui de Giacometti. Je ne sais pas si vous le voyez, ce chien famélique, la tête baissée et qui avance... guidé par sa truffe, on pourrait dire,
oui,
les odeurs.
Oui, oui.
Quel chien voyez-vous ? Vous parliez d'un petit chien.
Ah oui, 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 oui. Moi, c'était le chien que j'avais jusqu'à aujourd'hui, qui nous a quittés, qui est mort il y a 2 mois. Hein. Il était mordu par une vipère. Et ce chien, c'est lui qui m'a inspiré un peu, donc le chien du livre. C'est un Jack Russell, un petit Jack Russell, voilà. Et donc, ce chien, celui que j'avais, quoi, il m'a en partie inspiré donc, l'histoire. Voilà.
Cette vision, celle du chien, ouais. Est plutôt au niveau plus bas que notre vision propre de l'humanité.
Oui, oui.
Est-ce que ça influe justement sur ce paradigme, influe sur ce que perçoit le chien ?
Ah oui, oui, mais de toute façon...
Et qu'est-ce qu'il perçoit, justement ?
Il perçoit la violence, il perçoit cette irresponsabilité des hommes avec la terre, avec le territoire. Si vous voulez, pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment de ce livre, je veux bien vous lire l'introduction. Ça, c'est possible ? Imaginons ensemble... La planète Terre, comme une map-monde recouverte de papier millimétré, identique à celui dont nous nous servions à l'école pour des exercices de géométrie. Imaginons maintenant un moyen pour faire tourner cette map-monde sur son axe. Alors je pense souvent à cette belle phrase qui ouvre le film de François Truffaut, « L'homme qui aimait les femmes ». Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens quand je vois mon chien qui trottine dans toute l'innocence de sa condition. Un chien seul qui fait tourner le globe terrestre au hasard de son errance en flairant tous les millimètres carrés de sa surface qu'il nomme des « là » comme unité de territoire. Mais les territoires ont toujours éveillé dans l'esprit des humains, de certains humains, un appétit toujours inassouvi d'appropriation. Dresser des cadastres, des frontières, privatiser les espaces, l'homme n'a fait que ça depuis son apparition. Petit à petit, une envie que j'ai nommée « tout » s'est développée dans son cerveau. Tout veut tout pour le plus grand malheur de là. Alors mon chien globe-trotteur, chien savant, chien errant, chien rêvant, dans la profonde solitude de sa condition, se réfugie dans une dérive mentale salutaire afin de combler le vide quand il n'y a plus de réponse à rien. Comme le marcheur qui arrive au bord d'une falaise, stoppé dans sa progression et n'ayant d'autre moyen que de s'inventer des ailes pour continuer son chemin au-delà du vide et montrer que tout ne s'arrête pas là, et que l'imagination est un bras d'honneur à la réalité.
Voilà le regard et les réflexions d'un chien. Le vôtre, où est-il alors ?
Écoutez, le mien, il continue à trotter dans ma tête. Il trottera toujours jusqu'à mon dernier souffle. Parce que toutes ces réflexions, en fait, c'est des réflexions tellement principales dans la vie, que ce soit dans la vie des humains ou dans la vie des animaux. La réflexion, qu'est-ce que le territoire ? Nous vivons sur un territoire, jour et nuit, toute une vie. On vit sur la terre, sur un territoire qui est... toujours l'objet de convoitises. Regardez ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Voilà, les hommes ne font... Rien ne sert de leçon aux hommes, ils recommencent toujours leurs mêmes erreurs. Donc voilà, ce chien, il est là pour faire un constat de la folie des hommes.
Malgré tout, ce chien a besoin de cette humanité pour pouvoir avancer également. Et ça, c'est le cas aussi pour vous, j'imagine.
Ouais. Oui, bien sûr, j'ai besoin... L'humanité, ça, on l'a tous en nous. Après, il faut savoir l'exprimer, ne pas la refouler, ne pas tomber dans des hésitations, parce que on nous, franchement, l'époque qu'on vit en ce moment, elle nous invite pas toujours à exprimer notre humanité. Elle est une époque très contraignante, avec des règles, avec des modes, où celui qui prend la parole, une parole libre. Un poète, cet homme-là, cette femme-là n'est pas toujours bien reçue. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Et ce chien, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde, ce chien.
Alors, ce chien se confronte au territoire. L'appétit, d'ailleurs, lui vient comment ? De quoi se nourrit-il ?
Oh, c'est une nourriture, je dirais, spirituelle. C'est une nourriture spirituelle. Voilà, c'est... En fait, ce texte est quand même de la poésie. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a une part de rationnel qui devrait... qui devrait faire partie de ce texte. Mais j'ai mis le rationnel, je l'ai mis un peu de côté, quoi. Je suis allé à l'essentiel. Ce chien, c'est pas sa préoccupation première, c'est pas manger, c'est pas se nourrir. La préoccupation première de ce chien, c'est faire ce constat, dire aux hommes, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez votre folie.
Il s'agit pour lui donc de se poser parfois.
Oui, il se pose et puis il regarde autour de lui, il pense et il fait un constat, il fait un bilan. Il est dans la réflexion, comme le titre l'indique. Il est dans les réflexions et donc voilà, c'est un chien Oui, c'est un chien qui est gentil, c'est pas un chien qui mord. Quand je veux dire c'est pas un chien qui mord. Je veux dire par là que je dirais la même chose avec un humain. C'est pas un humain qui en veut à tout le monde. C'est pas un revanchard. C'est pas quelqu'un qui veut régler des comptes. C'est pas un chien ou un humain qui veulent régler des comptes. C'est surtout un cri, quoi. Dire arrêtez votre folie, quoi. On va droit dans le mur. Et voilà. Donc ce chien, il est tout seul, ça c'est sûr. Il est dans une grande solitude. Et c'est parce qu'il est dans cette grande solitude qu'il peut avoir cette réflexion, ces réflexions. Voilà, la solitude, elle a cet avantage. Elle fait pas peur la solitude, enfin pas pour moi du moins, parce que la solitude c'est l'endroit dans l'esprit où on peut échafauder plein de choses. Avec l'imagination, avec les souvenirs, tout ça. Ce sont des choses que la solitude nous permet de remettre devant, refaire ressortir tout ça, quoi. Et la solitude est un moyen extraordinaire pour essayer de faire fleurir un peu la vie, quoi. Voilà, quoi. C'est pas... Il y a eu des champs de bataille, il y a eu plein de champs de bataille, des millions de morts. Eh ben, il faut que maintenant, tous ces champs de bataille refleurissent et qu'on arrête de parler de guerre. Voilà, vous savez, après la guerre de 14, il y avait plein de champs où il y avait plein de coquelicots. les coquelicots sont ressortis de terre après la guerre. En fait, c'est un peu ça, ce qui arrive à ce chien. Cette réflexion, c'est comme un coquelicot, quoi. C'est comme un coquelicot qui sort de la terre et qui dit, voilà, maintenant, il faut arrêter tout le côté sombre de l'humanité. Il faut l'arrêter, tout ça. Et il faut que les coquelicots de l'esprit, de l'imagination, refleurissent.
Malgré tout, après cette pause, il faut reprendre son chemin, avec peut-être un contexte différent, ou un décorum peut-être différent pour mieux affronter cette marche, ou alors c'est de nouveau revenir toujours sur ce même chemin où on ne peut rien y changer au fond.
Déjà, la Terre, elle est ronde, hein. Donc, quand on part d'un point et si on continue, on revient à la case départ, hein. Le recommencement. Mais le recommencement de quoi? Le chien se pose des questions, mais en même temps, il y a des questions qu'il faut accepter, que des questions où il n'y a pas de réponse. Parce que ça, c'est la vanité de l'homme, de vouloir toujours apporter des réponses à tout. Il faut de l'humilité d'âme pour se dire, il y a des questions qui resteront sans réponse. Parce que quand on commence à vouloir répondre à tout, on commence à échafauder une espèce de pouvoir et dire aux gens, regardez, voyez, moi j'ai pensé comme ça, voyez, moi j'ai apporté une réponse à ça. Mais apporter des réponses à ça, est-ce que c'est vraiment utile tout le temps d'avoir des réponses? J'en suis pas sûr. Moi, j'aime beaucoup les points d'interrogation. Les points d'interrogation, pour moi, c'est un moteur mental. C'est ce qui fait que l'homme réfléchit, mais qu'il ait cette humilité de dire, ben là, je sais pas quoi répondre. Voilà. Il y a des gens qui veulent toujours dire, toujours montrer qu'ils maîtrisent tout, qu'ils savent tout. Ben non, ce chien, il fait pas partie de ces gens-là. Vous voyez, je dis, ces chiens font pas partie de ces gens-là. Parce que voilà, je l'ai humanisé, mon chien.
Il y a cet aspect donc de partage, et puis de l'écriture. Vous y êtes mis depuis fort longtemps, j'imagine.
L'écriture, par étapes. Hein, moi, je suis, comment dire, j'écris par G, mais entre chaque G, il peut se passer beaucoup de temps.
Et notamment le temps que vous avez passé aussi à travailler pour le théâtre également.
Oui.
Où vous avez préparé 6 pièces.
Oui. Et là, dans ce livre aussi, je tiens à le dire quand même, parce que à part ce texte-là, le texte principal, donc qui donne le titre au recueil, il y a d'autres textes et des poèmes, parce que bon, moi j'aime beaucoup la poésie. Ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Et si vous voulez, je peux vous lire un petit poème, si c'est possible.
Oui, tout à fait. Bien, comme vous voulez.
Allez, je vais vous lire un texte sur les amandiers. J'adore les arbres et j'ai un texte sur un amandier. Voilà, parce que j'ai pleuré, moi, devant les amandiers, déjà. Je trouve ces arbres délaissés qui ont servi le pays, à faire vivre le pays. Ils ont fait vivre le pays. Chez moi, là-bas, où j'habite, c'était l'arbre roi, l'amandier. Il faisait vivre tous les paysans. Et maintenant, on les a un petit peu délaissés parce que jugés non rentables. Maintenant, on préfère faire venir des amandes de Californie. Hein? Alors, et ces arbres, je les vois, ils sont tout tristes, tout morts. C'est des, on dirait des sculptures de Giacometti, justement. Alors, j'y vais. Je pense au sud, à ces terres trahies, effacées d'un coup de gomme par l'histoire des hommes, à ces amandiers tout secs et rabougris, comme des sculptures de Giacometti. Tendus, implorant les cieux, les voilà à la messe des gueux, les amandes, dans leur linceul d'un verre académique, se meurent doucement dans de vieux rêves oléiques. Sous leur écorce râpeuse et muette, palimpseste furieux d'oubli et de silence, se consument les cendres de notre ignorance.
Ces amandiers, donc, c'est un exemple à vos yeux de l'évolution de notre société, c'est-à-dire l'oubli, quelque part.
L'oubli, parce que l'oubli menacé par la rentabilité, quoi, parce qu'un arbre qui ne rapporte plus.
L'urgence.
L'urgence. Eh ben, on l'oublie, quoi. Et puis des fois, là, bon, les amandiers dont je parle, ils ont eu la chance de ne pas être coupés. Donc, ils meurent lentement au fil des ans. Ils meurent lentement, ils dépérissent. Mais on les a quand même laissés sur pied. Alors que des fois, on fait du bois pour alimenter les chaudières. Et donc, oui, ces amandiers m'ont ému jusqu'aux larmes. Et j'ai décidé d'écrire ce poème en leur honneur, en leur rendant un hommage. Qui mérite amplement.
J'imagine qu'il y a d'autres exemples que ce chien rencontre dans ses cheminements.
Ah oui, il y a des traces, des traces de la guerre. Vous savez, moi j'ai mon grand-père qui a fait 14-18. C'était une gueule. Non, il n'a pas été une gueule cassée, mais il aurait pu parce que il a échappé de très peu à un éclat d'obus qui aurait pu l'emporter la moitié du visage. Il est revenu de la guerre et vous savez, il parlait que de ça. Les revenants, les poilus, voilà. Mon grand-père faisait partie des poilus. Et ben cet homme-là, on l'a côtoyé parce qu'il a vécu. Mes parents l'ont gardé. Nous, on était famille, quoi. Hein, on gardait les vues à la maison. Et ce grand-père, il ne parlait que de la guerre. Il ne savait pas parler d'autre chose. Ça l'avait complètement. Détruit intérieurement et il ne parlait que de ça et donc ça m'a tellement touché, voilà, j'en parle un peu de loin de ça dans mon livre. Le chien il parcourt des terrains où il y a eu de la guerre, il parcourt des terrains où il y a eu des confrontations, où des soldats se sont tués entre eux et il retrouve des vieilles choses enterrées qui dataient de la guerre et donc tout ça c'est une remontée de souvenirs, de souvenirs de l'horreur, des campagnes napoléoniennes, tout ça. Il ne peut pas s'empêcher de faire référence à tout ça. Et tout ça remonte. Et donc, ce chien, il a très mal, quoi. Il va pas bien, ce chien, mais il continue quand même. Il continue parce qu'il ne peut pas faire autre chose que de continuer, quoi.
Dans ces pèlerinations, ce chien peut-être se présente sur des fêtes aussi, à travers le monde. La notion de fête est très différente, avec les moyens très différents aussi, mais le cœur aussi peut être plus ou moins là. Comment est-il justement face à la fête, à la joie ?
Ah ! J'ai pas trop abordé dans ce livre la fête et la joie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu noir, quoi. C'est un peu noir. Donc la fête, je ne sais pas s'il pense à la fête, ce chien. Il est trop pris par ce genre de réflexion et je crois que la fête, je pense qu'il pourrait aimer la fête. Il pourrait. Et puis en plus, il a pas de maître vraiment. Il n'a pas une personne à qui faire la fête. Il est dans une solitude extrême. Donc, faire la fête, c'est difficile pour lui.
On va revenir un petit peu sur votre expérience. Oui. Et donc, en 1992, vous avez créé ce petit théâtre résistant et rural,
oui,
intitulé « Le canard en bois ». Quelle motivation vous a amené à cette constitution ?
Alors, moi j'ai un principe dans ma vie, c'est un principe que je me suis fixé et auquel je tiens, je ne déroge jamais à ce principe. Je me dis tout le temps, là où il n'y a rien, tout reste à faire. Et donc, dans ce territoire qu'on nomme les baronnies, Il n'y avait pas de, salle de spectacle. C'était un peu un désert culturel. Et donc je me suis dit, le désert culturel, d'accord, il suffit maintenant de retrousser mes manches et de me mettre au travail pour créer un petit lieu de spectacle. Et donc j'ai créé le Canard en bois. Alors pourquoi le Canard en bois? Les gens me posent souvent la question, le Canard en bois, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Alors je dis, voilà, moi je m'occupais à un moment donné d'une petite basse-cour, où j'avais des pigeons, j'avais des poules, des coqs, des canards, voilà, toute une basse-cour qui cohabitait, voilà. Et puis je suis quand même assez observateur, et c'est des animaux à qui je donnais le grain tous les jours, je m'occupais d'eux. Et puis, à force, je me suis aperçu que le canard, parmi toute cette basse-cour, le canard est un animal, qui se met toujours un peu en retrait et qui regarde les autres. Et puis, après, il fait coin-coin. C'est un animal très braillard. Le canard est un animal, braillard, qui n'arrête pas de cancaner, de parler, de... Voilà, c'est un animal singulier qui se met toujours un petit peu en différence avec les autres. Et je me suis dit, mais les artistes, c'est un peu ça aussi quand même dans la société. Les artistes se mettent un petit peu en différence avec les autres. Ils se mettent un petit peu de côté pour mieux regarder la marche de ce monde. Et donc voilà, j'ai fait le parallèle, le canard avec les artistes. Et puis en bois, parce que moi c'est un matériau que j'aime beaucoup. La preuve, c'est que j'ai écrit je viens de vous lire un poème sur les amandiers. Et donc là-bas, on est entouré de bois nobles. On a du chêne, les amandiers qui sont maintenant abandonnés. On a des tilleuls, on a des oliviers, un panel d'arbres spécifiques à la région. Et je me suis dit, le bois et le canard, je vais essayer d'associer les deux. Et donc le titre est venu comme ça, naturellement, le canard en bois. Et en fait, beaucoup de gens me disent, mais c'est bien parce que ça, c'est un nom qui reste bien dans l'oreille. On s'en souvient.
Et d'ailleurs... On peut revenir sur cette notion du chien. Quel rapport établiriez-vous entre le chien de votre texte et le chien qu'on peut voir aussi dans La ferme des animaux?
Ah, alors là, je n'ai pas réfléchi à la question. Là, c'est un peu une colle. Hein. Je ne sais pas le rapport qu'on pourrait faire. Je ne peux pas vous dire. Oui, La ferme des animaux, déjà, je trouve que les animaux avaient raison. Comme le chien, le mien, a raison, quoi. Il faut que l'humain se mette ça s'agisse un peu, quoi. Sinon on va passer son temps à les juger, quoi. Les animaux qui jugent les hommes, belle image, mais je trouve que c'est tellement, c'est tellement vrai que les animaux, c'est ce que je pense moi, je dis pas que j'ai raison. Moi, je pense que les animaux nous jugent à leur façon, nous condamnent à leur façon. Vous savez, moi, j'ai toujours vécu avec des animaux, toujours. Eh bien, les préjugés qu'on a envers certains animaux, tous ces préjugés viennent de gens qui n'ont jamais vécu avec des animaux. Et c'est pour ça, voyez, par exemple, le renard. C'est un scandale, ce qui se passe en ce moment avec le renard. On le juge, on dit que c'est un vecteur de rage et tout. Ce n'est pas vrai. Vous savez ce qui s'est passé chez moi pendant le confinement? Chez moi, là-bas, je suis perdu. Hein, je suis entouré d'arbres, mais pas de maison. Je suis perdu. Je suis perdu de chez... C'est un trou perdu chez moi. Eh bien, pendant ce confinement, j'ai vu un renard que je ne voyais jamais avant. Il est venu parce que tout était plus calme. La folie des hommes s'était un peu atténuée. On voyait déjà plus d'avions, de traces d'avions dans le ciel. Et puis, j'ai vu un renard. Il s'est invité pendant une semaine, il s'est invité. Il n'était pas du tout agressif. Mais attendez, parce que j'ai quand même 6 chats à la maison. Eh bien, il n'a jamais cherché à manger les chats, à leur faire du mal. Pourtant, on dit, oui, les chats sont mangés souvent par les renards. Peut-être, je ne dis pas le contraire, mais bon, voilà, là, en l'occurrence, ce renard, il s'est invité, il faisait une apparition chaque jour, pendant une semaine, il tournait pendant 2-3 heures autour de la maison. Les chats le voyaient, ils lui disaient rien. Ils n'avaient même pas peur du renard, et le renard n'allait pas leur faire du mal. J'ai vécu quand même cette semaine, c'était du bonheur de voir ce renard. Et puis ce renard, à un moment donné, au bout d'une semaine, on ne l'a plus revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Vous voyez, donc, voilà, quoi. J'en ai marre un peu de ces préjugés. On trouve toujours, vous savez, on trouve toujours une bonne raison pour tuer un animal. Hein. Si, voilà, moi je pense que... Moi je suis entouré de chasseurs là-bas, à mon grand regret. Et puis bon, voilà... Ils sont toujours en train de dire la régulation, faut réguler. J'en ai marre de ce mot.
Ou prélèvement.
Ouais, prélèvement régulé. Écoutez, je trouve ça vraiment, mais c'est nul, quoi. C'est vraiment nul, parce que franchement, les animaux, s'il y a beaucoup de sangliers, c'est parce qu'on les nourrit. Hein. Les animaux, j'ai assisté à des nourrissages. J'ai vu des chasseurs nourrir des sangliers et qui les animaux, ils les tuaient 6 mois après quand la chasse ouvrait. Mais entre-temps, ils les avaient nourris. Et c'est pour cela qu'on assiste maintenant, aujourd'hui, à des portées de lait, des portées de femelles, mais comme on n'a jamais vu. Maintenant, une lait, elle met à bas 10, 12, 15 petits. Alors évidemment qu'après, il y a surpopulation. Mais si on ne les avait pas nourris, vous savez, normalement, une lait par an, elle ne fait qu'une portée, une lait. Hein, et en principe, ça atteint 3 individus, 3 petits. Voilà.
Quand Marcel Moratal, ce livre « Réflexion à 4 pattes » est édité donc, aux éditions Douro, pour l'avoir, justement, je suppose qu'il faut écrire à une adresse mail ou aller sur le site des éditions Douro.
Vous pouvez commander sur le site des éditions Douro. Sinon, vous pouvez le commander en librairie parce que le livre est distribué par Hachette. Hein. Donc, le libraire, s'il ne l'a pas, il le commande. Hein. Il n'y a pas de souci.
En parlant d'Hachette, qui appartient à Lagardère, il y a la mainmise de Bolloré sur ses moyens de communication, de livres.
Alors moi, ça m'a très... Justement, vous abordez un problème là. Moi, ça m'a vachement contrarié de savoir que le livre était... Moi, je ne le savais pas. C'est une fois que le livre est sorti que l'éditeur m'a dit ça. Le livre est distribué par Hachette. Donc, moi, ça m'a assez contrarié. Hein. Je dois le dire, j'ai pas apprécié. J'aurais été averti avant. Peut-être que le livre serait pas sorti. Peut-être que j'aurais peut-être changé de maison d'édition. Voilà. C'est comme Amazon. Moi, Amazon, moi, personnellement, j'achète rien sur Amazon. Et en même temps, j'évite les sorties dans de bouquins, distribution par Amazon, tout ça. Bon, j'essaye de fuir tout ça. J'ai pas envie que mes livres engraissent Amazon, quoi. Quand on sait comment ils traitent leur personnel. J'ai pas envie de cautionner ça. Pas du tout.
Une chose m'apparaît aussi à vous demander, est-ce que ce regard, cette vision, vous la partagez, vous l'échangez avec d'autres personnes qui ont ce même constat ?
Bah écoutez, oui, j'essaye un peu d'échanger avec mes histoires, mes poèmes, mes écrits. Je donne des lectures, quand j'ai la chance de trouver un lieu qui m'accueille, une association, un théâtre, une maison des jeunes, une médiathèque. Eh bien oui, moi je me fais toujours une joie de partager mes écrits. Ah oui, oui. Là, d'ailleurs, je vais bientôt faire une lecture le 3 avril à Vison-la-Romaine d'un de mes textes au Théâtre des Deux Mondes qui s'appelle « Est-ce que répandre du bleu, c'est faire la mer ?» Peut-être qu'un jour, si vous voulez, je peux revenir vous en parler.
À l'occasion d'une des venues sur le Diwa ?
Oui, 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 bien sûr.
Très bien.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et puis, pour cet ouvrage, vous avez demandé à un illustrateur d'intervenir. Donc, ce livre est agrémenté de diverses illustrations une perception du texte, ou alors il avait son imagination propre aussi par rapport au chien.
C'est-à-dire que, Guillaume, donc la personne qui a illustré l'ouvrage, c'est pas du tout ce genre de dessin qu'il fait. Il est illustrateur, hein, c'est son travail. Il est dans un autre univers, un univers un peu gothique. Et c'est vrai que quand je lui ai proposé ce projet, en fait, ça l'a intéressé, bien que ce n'est pas du tout ce qu'il fait habituellement. Il m'a dit, moi, je veux bien le faire parce que ça va m'obliger à faire quelque chose que je ne fais pratiquement jamais. Donc, ça va me changer un peu mes habitudes. Ça va me changer... une façon de voir les choses, de faire les choses. Et donc, il m'a dit, pour moi, je prends ça comme un pari, voilà. Donc, une épreuve, quelque chose de, voilà, qui l'éloigne un petit peu de ce qu'il fait habituellement.
Marcel Moratal, je vous remercie d'être venu sur RDIWA pour nous donner un peu de votre temps et nous présenter ainsi cet ouvrage. Je répète, Réflexion à quatre pattes et tout en noir et blanc. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, merci, merci de m'avoir accueilli.
Au revoir. Et on va finir aussi avec une dernière lecture.
Ah, oui, allez. Comme on approche du dîner, je vais vous faire un petit clin d'œil, avec des cornichons. Il n'y en a plus. Plus de cornichons. Ils sont tous partis, sans dire au revoir. Même pas un signe. Au petit oignon blanc, resté tout seul, au fond du bocal, dans son vinaigre blanc. C'est peut-être ça la solitude. Tout seul, au fond d'un bocal, dans du vinaigre blanc.
Une...